Les mystères du Palais Royal, sixième partie. Chapitre 25. Une scène à trois personnages. Ce silence, nous devons le dire, semblait plus embarrassant à Raoul que les interrogations mêmes du régent. Tout à coup, ce dernier releva la tête et dit brusquement: « Si je vous demandais de faire apparaître devant moi, ce soir, la reine de Saba, que me répondriez-vous ? » Raoul tressaillit d'une façon visible et murmura d'une voix dont il ne pouvait cacher complètement l'émotion. « Je répondrai, monseigneur, qu'il en sera fait selon vos ordres. Et les résultats de cette évocation seraient les mêmes que ceux auxquels vous nous avez fait assister l'année dernière. Pourquoi non, monseigneur ? Même si vous étiez gardé à vue, d'ici là, de façon à ce qu'aucune communication avec le dehors ne vous fût possible ? Mes communications avec le dehors ne peuvent avoir nulle influence sur des résultats prévus et certains, monseigneur. Affirmeriez-vous sur l'honneur ce que vous dites là ? Je l'affirme sur ma foi de gentilhomme. Chevalier de la Tremblée. Monseigneur, ou vous êtes un honnête homme effroyablement calomnié, ou vous êtes le plus audacieux coquin qui se puisse trouver sous le ciel. Je suis un honnête homme calomnié, que votre Altesse royale daigne n'en point douter. Pour la troisième fois, le régent se tut. Ses yeux s'affaissèrent de nouveau vers le tapis et sa physionomie exprima le doute et l'irrésolution. Raoul, en ce moment, éprouvait un indicible sentiment d'anxiété et nous dirons presque d'angoisse. Son cœur ne battait plus, son pouls s'était arrêté, une sueur froide perlait à la racine de ses cheveux. Il venait de jouer le tout pour le tout. Le gain de cette partie décisive allait-il lui rester ? Triompherait-il à force d'audace ? Sortirait-il du palais royal libre, triomphant, mieux affermi que jamais dans sa puissance et dans son crédit ? Ou bien les donjons de la Bastille allaient-ils refermer sur lui leurs portes, qui devaient, comme celle de l'enfer du Dante, porter en lettres de feu ces mots sinistres ? Vous qui entrez, laissez ici toute espérance. Évidemment, le régent était combattu, le régent doutait. Lequel allait l'emporter, dans le plateau de la balance, de Raoul ou de son accusateur inconnu? Toutes ces idées se succédèrent dans l'esprit de Monsieur de la Tremblée en beaucoup moins de temps que nous n'en avons mis à les analyser. Quand le duc d'Orléans releva la tête, il avait aux lèvres un mauvais sourire, et le regard qu'il attacha sur Raoul était, si nous pouvons nous servir d'une comparaison aussi insolite, était acéré et pénétrant comme la lame d'un stylet. « Chevalier, dit-il d'une voix lente et qui soulignait en quelque sorte chacune de ses paroles. Comment se fait-il que vous n'ayez pas encore sollicité de nous une faveur que nous vous aurions accordée sans conteste ? Oserais-je demander à votre Altesse royale quelle est la faveur dont elle parle ? Celle de présenter au palais royal votre femme ? » Raoul chancela sous le choc. Cependant, il répondit. « Hélas, votre Altesse royale ignore sans doute que j'ai eu le chagrin de perdre Madame de la Tremblée il y a déjà plusieurs années. » « Ainsi, votre femme est morte ?»« Oui, monseigneur. » « Ce fut pour vous, j'imagine, une perte bien douloureuse. » « Oui, monseigneur, bien douloureuse. » « Car vous aviez été parfaitement heureux en ménage, selon toute apparence. » « Parfaitement heureux, oui, monseigneur. » « Que voulez-vous, chevalier ? La mort tranche les nœuds les plus doux. Heureusement, vous avez su trouver une compensation. La seconde Madame de la Tremblée a, dit-on, tout ce qu'il faut pour vous consoler complètement de la perte de la première. » Raoul devint livide. « Monseigneur, s'écria-t-il, monseigneur, qu'a-t-on dit à votre Altesse royale ? Mais rien que de très naturel et de très légitime, ce me semble. » « On m'a dit que vous vous étiez remarié en seconde noce. M'aurait-on menti par hasard ?»« Oui, monseigneur, » balbutia Raoul. « On vous a trompé, votre Altesse. »« Le croyez-vous réellement ?»« Qui donc le saurait, si ce n'est moi, monseigneur ?»« C'est qu'en effet, dans ce cas, on aurait abusé avec une rare impudence. »« On est entré dans une foule de détails, détails précis et qui paraissent positifs. » On m'a dit que la nouvelle Madame de la Tremblée s'appelait, avant son mariage, Mademoiselle de Chambard. Êtes-vous bien certain, chevalier, que ce ne soit point la vérité? Raoul courba la tête et ne répondit pas. Évidemment, le régent était bien et complètement instruit, et toute dénégation ne pourrait servir désormais qu'à rendre la position plus mauvaise. Philippe continua. On m'a dit encore, chevalier, et cela ne m'étonne point de la part d'un homme épris comme vous l'êtes de l'extraordinaire et du merveilleux, on m'a dit que mademoiselle de Chambard vous avait séduit d'autant plus que son visage et toute sa personne offraient une miraculeuse ressemblance avec certaines figures de certaines tapisseries, qui, s'il faut vous en croire, vous rappelaient d'étranges souvenirs de jeunesse. Le régent se tut et parut attendre une réponse de monsieur de la Tremblée. Mais Raoul resta muet et brisé. On m'a dit enfin, poursuivit le duc d'Orléans, qu'obéissant aux instincts de votre nature indépendante, qui redoute de s'enchaîner par des liens trop indissolubles, vous aviez mieux aimé tromper mademoiselle de Chambard que de l'épouser, et qu'une parodie sacrilège avait remplacé un mariage sérieux et réel. Est-ce encore vrai cela, chevalier ? Insista le régent. Non, monseigneur, répondit Raoul avec impétuosité. Non, cela n'est pas vrai. Jeanne de Chambard est bien ma femme, devant Dieu et devant les hommes. Ainsi, cette cérémonie dans la chapelle de l'hôtel de Tiange était la célébration d'un mariage véritable, monseigneur. Ainsi, le prêtre qui vous a donné la bénédiction nuptiale était un ministre de Dieu, monseigneur, et ce qu'il faisait, il avait le droit de le faire. Philippe d'Orléans regarda fixement Raoul pendant quelques secondes avec un indéfinissable sourire. Puis il s'écria. Eh bien, dans ce cas, chevalier de la Tremblée, tant pis pour vous. C'est vous qui l'aurez voulu. Je ne comprends pas ce que votre Altesse me fait l'honneur de me dire, murmura le jeune homme dont l'angoisse dépassait les bornes du possible. Je veux dire, répliqua le duc avec une expression effrayante, je veux dire que Philippe d'Orléans aurait pu, peut-être, pardonner un crime commis envers lui seul, mais que le régent de France est le grand justicier du royaume, et qu'au-dessus de lui, il y a la loi qu'il doit faire respecter. Chevalier de la Tremblée, tout gentilhomme que vous êtes, vous ne serez pas décapité, vous serez pendu.
Pendu ? Répéta Raoul avec stupeur.
Oui, par Dieu ! Vous croyez-vous trop grand seigneur pour la corde, par hasard ? Le comte de Horn a bien été roué, et le comte de Horn était mon parent.
Mais qu'ai-je donc fait ? Qu'ai-je donc fait ?
Balbutia Raoul effaré et sentant que sa tête s'égarait.
Ce que vous avez fait, vous avez épousé deux femmes. Vous êtes bigame, chevalier. Mon Dieu, voilà tout.
Mais, monseigneur, la première de ces femmes est morte.
En avez-vous la preuve ?
Non, monseigneur, mais cette preuve existe. Elle doit exister. Et quand bien même il faudrait fouiller le monde entier pour la trouver, on la trouvera.
Vous en êtes sûr ?
Oui, monseigneur, sûr comme d'être vivant.
Eh bien, moi j'en doute.
Votre Altesse en doute ?
Et pourquoi ?
Parce que j'ai la preuve que la première dame de la Tremblée était vivante encore quand vous avez épousé la seconde.
Mais c'est impossible, monseigneur, c'est impossible.
Elle était si bien vivante alors, poursuivit le régent, qu'elle est vivante encore aujourd'hui. Et je n'ai pas besoin de fouiller le monde pour en trouver la preuve. Regardez !»
Philippe, d'un mouvement rapide, reploya les unes sur les autres les feuilles de l'écran de lac, derrière lequel Raoul avait cru entendre, à plus d'une reprise, le bruissement léger d'une robe de soie. Une femme masquée était assise, calme et impassible.
« Antonia Verdi, lui dit le régent, affirmez à monsieur le chevalier de la Tremblée que sa première femme n'est point morte. Et peut-être vous croira-t-il. »
Antonia Verdi se leva, arracha son masque, et Raoul, foudroyé, reconnut le visage pâle et les grands yeux noirs de la fille du diable.
Chapitre 26. La bienveillance d'un exemple. Philippe d'Orléans professait une sympathie toute particulière pour les représentations dramatiques. Il aimait les grands effets de scène. Il adorait les coups de théâtre. Le mélodrame, tel que le comprennent aujourd'hui les maîtres du genre, aurait eu droit à ses plus chaleureux encouragements. Aussi, ce fut avec la satisfaction vive et légitime d'un amateur éclairé qu'il savoura la situation dont il venait d'être tout à la fois le créateur et le metteur en scène. Son regard allait d'Antonia Verdi démasquée à Raoul anéanti, et il avait aux lèvres le sourire heureux d'un dramaturge qui voit se dessiner le succès de son œuvre. « Eh bien, monsieur, » demanda-t-il au bout de quelques secondes au chevalier de la Tremblée. « Que pensez-vous de cela? Suis-je bien renseigné? Qu'avez-vous à répondre ?»«
Monseigneur, » s'écria Raoul, « je n'ai rien à répondre, et je sens bien que je suis condamné. Mais prenez garde à cette femme, monseigneur. Cette femme est un mauvais génie. »
Antonia Verdi, ou la fille du diable, ou plutôt Hébé, puisqu'il convient de lui restituer son véritable nom, s'avança vers Raoul, le regard menaçant et la lèvre soulevée par une contraction farouche.
« Osez-vous bien parler ainsi ? » dit-elle d'un ton plein de hauteur et de haine. « Osez-vous bien élever la voix ? Osez-vous bien traiter une femme de mauvais génie ? Vous, le fourbe et le déloyal ? Vous, l'assassin du marquis d'Avisac ? Vous, l'assassin du vicomte d'Aubigny ? Vous, qui m'auriez assassiné si la fuite ne m'avait soustraite à votre fureur ?
« Monseigneur, » balbutia le chevalier en étendant vers le régent ses deux mains suppliantes. « Qu'il plaise à votre Altesse de m'infliger à l'instant même le châtiment que j'ai mérité. Que la Bastille s'ouvre pour moi, je vous le demande à genoux. Mais que je ne sois point réduit à subir devant vous les insultes de cette misérable créature. Demandez-moi mon épée, Monseigneur, ou donnez-moi l'ordre de la briser. Car je le sens bien, je vais tuer cette femme. »
« Ce serait trop tard, monsieur, » répondit Philippe avec ironie. « Madame n'en aurait pas moins été vivante et bien vivante lors de la célébration de votre mariage, et vous n'en seriez pas moins pendu. »
Raoul, complètement écrasé, perdit la conscience du lieu où il se trouvait et de la multiple accusation qui pesait sur lui. Il oublia la présence du régent. Il oublia la présence d'Hébé, ou plutôt le chaos se fit dans ses pensées et les ténèbres envahirent son intelligence. Ses jambes, ne pouvant plus supporter le poids de son corps, se dérobèrent sous lui. Il chancela, et il tomba presque sans connaissance dans un fauteuil qui, par hasard, se trouvait derrière lui. Cet anéantissement absolu fut d'ailleurs de courte durée. Quand Raoul reprit le complet usage de ses sens, le duc d'Orléans et Antonia Verdi, que nous continuerons décidément à appeler ainsi pour la plus grande clarté de notre récit, ne se trouvaient plus dans le cabinet. En revanche, M. de la Tremblée vit à trois pas de lui la physionomie bienveillante et l'éternel sourire de l'exemple vêtu de noir qui l'avait amené au palais royal. « Eh bien, monsieur, » lui demanda ce dernier, « comment vous sentez-vous maintenant ?» Raoul, au lieu de répondre, fit un violent effort pour rassembler ses souvenirs confus qui ne tardèrent point à revenir en foule. « Il paraît, monsieur le chevalier, » reprit l'exemple, « il paraît que l'affaire a été chaude. »«
Oui, » répondit Raoul. « Et sans doute, vous le savez mieux que personne. »«
Eh mon Dieu, comment le saurais-je ? » ?»«
Les grandes punitions sont pour les grands coupables, » répliqua le chevalier avec amertume. « Et vous devez avoir reçu des ordres qui me concernent. »«
Oui, certainement, monsieur le chevalier, j'en ai reçu. »«
Eh bien alors, exécutez-les. »
« C'est probablement la Bastille qui m'est destinée, en attendant mieux. Je suis prêt à vous suivre. »«
Pardon, monsieur le chevalier, mais il y a entre nous, en ce moment, un malentendu. »«
Un malentendu ? » ?»«
Oui.
Lequel ? » ?»«
Il ne m'est nullement enjoint de vous mener à la Bastille. Quant à présent, du moins. »«
Ah ? » fit Raoul. « Cela vous étonne ? » ?»«
Beaucoup. »
« Et dites-moi, je vous prie, que devez-vous donc faire de moi ?»«
Rien de fâcheux. »«
Mais encore. »«
Je dois vous conduire dans un salon d'attente qui se trouve à côté de ce cabinet. Vous y demandez votre épée et vous y gardez à vue. »«
Jusqu'à quand ?»«
Jusqu'à ce qu'il plaise à son Altesse royale de vous faire appeler de nouveau. »«
Le régent veut donc me revoir une seconde fois ?
Cela est vraisemblable, monsieur le chevalier.
Vous plaît-il que nous passions dans le salon d'attente qui nous est désigné ?
Me voici, monsieur.
La pièce dans laquelle l'exemple introduisit Raoul était vaste, meublée somptueusement et ornée de tableaux de Lebrun, de Vanloo, de Simon Vouet et de Natoire. Sur un guéridon, dans l'un des angles de cette pièce, se trouvait une collation composée de viande froide, de pâtisseries sucrées et de deux flacons de vin d'Espagne. L'exemple avança un fauteuil à Raoul et le pria de s'asseoir.
« Monsieur le chevalier, lui dit-il ensuite, vous savez que j'ai l'ordre de vous demander votre épée. »«
La voici, répondit Raoul en la tirant du fourreau et en la présentant à l'exemple.
En vérité, monsieur le chevalier, reprit ce dernier, tout ce qui se passe aujourd'hui m'étonne et me confond beaucoup plus que je ne saurais le dire.
Pourquoi donc ? Demanda machinalement Raoul, dont la pensée était ailleurs.
Depuis que j'ai l'honneur d'être exemple, j'ai opéré de bien nombreuses arrestations, et j'ai conduit à la Bastille, au château de Vincennes et même à Pignerol de très hauts personnages. Mais jamais, au grand jamais, je n'ai rien vu de semblable à ce que je vois en ce moment.
Je ne vous comprends pas, dit monsieur de la Tremblay. Vous êtes porteur d'une lettre de cachet contre moi. Vous m'arrêtez? Vous m'amenez au palais royal? Vous me demandez mon épée? Quoi de plus simple?
Dans le fond, oui, mais dans la forme, c'est bien différent.
En quoi?
Je vous en fais juge.
D'abord, ainsi que j'ai eu le plaisir de vous l'expliquer déjà, je ne vous ai point arrêté. J'ai reçu la mission de vous accompagner sans vous perdre de vue, ce qui n'est point du tout la même chose. Ensuite, et toujours selon la teneur expresse de mes ordres, je vous conduis dans le cabinet de Son Altesse Royale. Là, que se passe-t-il? Je n'en sais rien, et je n'aurai pas l'indiscrétion de vous le demander. Mais il paraît que Monseigneur le Régent vous traite de façon assez rude et vous fait grand-peur, puisque je vous retrouve anéanti et sans connaissance.
De cela, que devons-nous logiquement conclure, je vous prie? Sinon que j'allais être forcé de vous écrouer au plus vite dans quelque prison d'État.
Eh bien, pas du tout. Son Altesse Royale tient à vous revoir et me donne l'ordre, de sa propre bouche, de vous garder à vue, mais de vous témoigner les plus grands égards. Vous entendez, monsieur le chevalier? Les plus grands égards.
Son Altesse Royale ne s'arrête pas là. L'intérêt qu'elle vous porte va jusqu'à lui rappeler que vous n'avez peut-être pas déjeuné ce matin. Et je suis chargé par elle de vous faire les honneurs de la collation que voilà et qui a été apprêtée tout exprès pour vous.
Parlant ainsi, l'exemple désignait le guéridon chargé de mets. Et il terminait en ajoutant « Que dites-vous de cela, monsieur le chevalier ?
Que dites-vous de cela ? Je ne sais pas si vous êtes un grand criminel, mais je sais bien que quelque chose me dit que vous serez libre avant ce soir. »
Raoul secoua tristement la tête.
« Est-ce que vous doutez de la réalisation de mes pressentiments favorables ? » demanda l'exemple.
« Beaucoup, je l'avoue. »
« Eh bien, vous avez tort. Mais peut-être cette noire mélancolie qui vous accable tient-elle à la privation trop longtemps prolongée de toute nourriture. Mangez une aile de ce faisant et buvez deux verres de ce vin d'Espagne. Vous verrez qu'aussitôt après, vous vous trouverez être un homme tout différent. Mon conseil est bon, monsieur le chevalier, suivez-le. »
Si bon que fût le conseil, Raoul était dans une situation d'esprit qui ne le disposait point à en faire son profit. Cependant, et de guerre lasse, il dut céder aux bienveillantes insistances de l'exemple qui semblait prendre à lui un intérêt tout particulier. Il mangea donc, il but, et nous devons à la vérité de déclarer qu'il s'en trouva bien. Le découragement profond, je dirais plus le désespoir qui s'était emparé de lui, se calmèrent un peu grâce à l'influence fortifiante et vivifiante du vieux vin d'Espagne. Ainsi que l'exemple lui avait annoncé, il se trouva un homme tout autre que ce qu'il était l'instant d'auparavant. Il envisagea sa situation sous toutes les faces, et si désespéré qu'elle lui parut, il lui sembla néanmoins que de sa nouvelle entrevue avec le régent pouvait sortir quelques résultats inattendus et inespérés.
Chapitre 27. Le bout de l'oreille.
2 heures se passèrent ainsi. 2 heures qui semblèrent bien longues à Raoul, quoique l'exemple fît de louables efforts pour le distraire et l'égayer, par une conversation soutenue, dont il faisait à peu près seul tous les frais, car cette conversation ne fut à vrai dire qu'un immense monologue, coupé çà et là par quelques rares monosyllables de Raoul. Au bout de ce temps, l'huissier qui avait introduit une première fois notre héros dans le cabinet du régent vint le prévenir que son Altesse royale le faisait demander. Raoul trouva Philippe d'Orléans debout et dans son éternelle attitude, c'est-à-dire le coude appuyé au marbre blanc de la cheminée. Les feuilles repliées du paravent de laque ne pouvaient plus servir d'asile à personne, et il était évident que les deux hommes se trouvaient seuls dans le cabinet. Philippe attacha sur M. de la Tremblay son regard empreint, lorsqu'il le voulait, d'une majesté toute royale. Puis, après quelques minutes de silence, il lui dit « Vous devez être étrangement surpris de vous voir en ma présence, au lieu de vous trouver derrière les murailles de la Bastille. » Le régent fit une pause, et cette pause semblait demander une réponse. Raoul répondit donc « Je n'ai pas le droit de m'étonner, monseigneur, et votre Altesse royale est bien la maîtresse de retarder ou d'avancer l'heure du châtiment que je mérite, et auquel je n'espère en aucune façon me soustraire. » Philippe d'Orléans reprit. « Vous ne vous défendez pas, monsieur, et vous avez raison. C'est le moyen d'obtenir peut-être une indulgence dont vous ne seriez point digne autrement. » À ceci, Raoul n'avait rien à répondre. Il se contenta de s'incliner profondément, tout en commentant, à part lui, ce mot « indulgence » que le régent venait de prononcer, et tout en se demandant si les pronostics énumérés avec tant de complaisance par l'exemple allaient être suivis d'un heureux dénouement auquel il n'osait croire. « Monsieur de la Tremblay, » poursuivit Philippe après un silence, « vous vous êtes fait, il y a 2 heures, plus coupable que vous ne l'étiez en réalité. Votre seule faute est d'avoir abusé de notre confiance. Quant au crime de bigamie, vous ne l'avez point commis. « Quoi, monseigneur ? » s'écria Raoul avec un oubli complet de l'étiquette. « Vous savez ?»« Je sais la vérité, » interrompit le régent. « Mais comment ?»« Le marquis de Tiange, interrogé par moi, m'a tout révélé. Il a prêté son concours à un mariage de comédie. Jeanne de Chambard n'a jamais été votre femme. »«
Monseigneur, » balbutia Raoul.
« Silence, monsieur, » dit le régent. « Laissez-moi parler et écoutez-moi. Du moment où vous n'étiez plus coupable qu'envers moi seul, du moment où je n'avais plus à me faire le vengeur de la loi audacieusement violée, je redevenais l'unique arbitre de vos destinées. Je pouvais punir seul, pardonner seul. J'ai pesé vos actions dans une juste balance. J'ai examiné vos fautes, et non seulement vos fautes, mais encore les motifs qui vous les avaient fait commettre. Et j'ai trouvé, à presque toutes, des circonstances qui les atténuent. » Le régent fit une pause. Raoul écoutait, il entendait, mais il ne comprenait pas. Et il lui semblait qu'il était en ce moment le jouet d'un songe bizarre et invraisemblable. N'était-ce pas, en effet, la chose la plus étrange, la plus inimaginable, la plus impossible en quelque sorte, que de voir Philippe d'Orléans se constituer sans raison apparente le défenseur officieux de celui par qui il venait d'être très grièvement offensé. S'il est une injure que les princes, aussi bien que les autres hommes, ne pardonnent guère, c'est celle qui peut les couvrir de ridicule, en montrant qu'ils ont été facilement et grossièrement dupes. L'offense de Raoul était de ce genre, et malgré cela, Philippe se battait les flancs pour amoindrir la faute, pour l'innocenter en quelque sorte, et pour se créer à lui-même des motifs d'indulgence. Que voulait dire cela? Et sous toutes ces périphrases, y avait-il donc un piège? Voilà ce que se demandait Raoul, et la réponse, ainsi qu'on le verra, ne devait pas se faire attendre longtemps. « Oui, » continua le régent, « vous ne vous êtes pas fait une idée bien nette de la gravité de votre action. Vous n'avez point réfléchi qu'en complotant de m'abuser par une fantasmagorie habile et en mettant ce complot à exécution,
vous attentiez dans ma personne à la dignité royale dont je suis le représentant. Vous avez voulu vous défaire d'une rivale dans ma faveur. Vous avez voulu combattre cette femme qui hier encore j'appelais Antonia Verdi et que maintenant je nomme Madame de la Tremblay. Vous vous êtes servi pour cette lutte des armes étranges que le hasard avait mises entre vos mains et vous avez cru en avoir le droit. Tout cela est-il la vérité, Monsieur de la Tremblay ?
Tout cela est la vérité, Monseigneur, répondit Raoul.
Vous voyez jusqu'où va ma bienveillance à votre endroit, reprit Philippe. Et vous vous en étonnez sans doute. Eh bien, cette bienveillance ira plus loin encore, si vous voulez. Le marquis de Tianges, qui ne fut cependant que votre complice, est depuis une heure à la Bastille, où je le laisserai longtemps réfléchir. Vous, au contraire, vous pouvez être libre à l'instant.
Le régent s'interrompit.
Libre à l'instant ? Répéta Raoul avec vivacité.
Oui.
Votre Altesse me permet-elle de lui demander ce qu'il faut faire pour cela ?
Acceptez certaines conditions que je vais vous proposer.
Le bout de l'oreille va se montrer, pensa Raoul. Puis tout haut.
Quoi ? Votre Altesse royale daignera me proposer des conditions ? S'écria-t-il, quand elle a le droit de me donner des ordres ?
Je ne veux rien vous imposer. Et je prétends vous laisser le choix entre la Bastille et l'acceptation de ces conditions.
Ce choix est fait d'avance, monseigneur.
Qui sait ? Dit le régent.
Que votre Altesse royale veuille bien s'expliquer, et elle appréciera mon obéissance.
Écoutez-moi donc, et pesez mes paroles. Je vais vous faire rendre votre épée. Je vais déchirer la lettre de cachet qui vous concerne. Vous allez monter dans un de mes carrosses et retournez seul à votre logis. Là, vous inventerez une fable pour justifier, vis-à-vis de Jeanne de Chambard, la façon un peu bizarre dont vous êtes sorti ce matin. Vous direz à cette jeune femme que je voulais vous voir, que vous êtes plus avant que jamais dans mes bonnes grâces, et qu'en témoignage d'une faveur toute particulière, je vous accorde à l'un et à l'autre un appartement au palais royal.
Ah ! Se dit Raoul avec effroi. Le bout de l'oreille, le bout de l'oreille.
Le régent continua. Dès aujourd'hui, dès ce soir, dès tout à l'heure, vous viendrez avec Jeanne de Chambard prendre possession de cet appartement. Vous souperez tous deux avec moi cette nuit. Et demain, au point du jour, je vous aurai métamorphosé en diplomate et vous partirez pour l'Angleterre avec une mission de confiance.
« Seul, monseigneur ?» demanda Raoul.
« Naturellement. »«
Mais, monseigneur, » dit notre héros avec une feinte naïveté et comme s'il n'eût point deviné le but du régent.
« Si je pars demain matin au point du jour, que deviendra ma femme ?»
Philippe d'Orléans eut aux lèvres cet indéfinissable sourire dont nous avons déjà parlé.
« Chevalier de la Tremblay, » répondit-il. « Votre femme se nomme Antonia Verdi, et si vous tenez à l'emmener avec vous, je vous déclare que je n'y mettrai nul obstacle. »
Raoul baissa la tête et parut s'absorber dans de sombres et profondes réflexions. Le régent l'abandonna à ses pensées pendant 5 minutes.
« Eh bien, chevalier, lui dit-il au bout de ce temps, eh bien, êtes-vous décidé ?»«
Oui, monseigneur, fit Raoul en relevant la tête.
Vous avez convenablement pesé cette inévitable alternative, la Bastille ou l'Angleterre ?
Oui, monseigneur.
Et que choisissez-vous ?
L'Angleterre, monseigneur. Philippe eut un mouvement de joie aussitôt réprimé.
Vous avez raison, dit-il ensuite. Mais ce choix ne vous laisse-t-il ni regret ni arrière-pensée ?
Aucune arrière-pensée du moins, monseigneur.
« Êtes-vous ambitieux, chevalier ?»«
Autant comme du monde, monseigneur. »«
Eh bien, j'aurai soin de votre fortune, et si, comme je n'en doute pas, vous faites preuve d'habileté dans vos nouvelles fonctions diplomatiques, vous pourrez aller haut et loin. »«
J'en accepte l'augure avec respect et reconnaissance, monseigneur. »«
Vous allez être libre, chevalier. Je n'attends plus de vous qu'une chose. »«
Laquelle, monseigneur ? »
vous allez me donner votre parole de gentilhomme, que votre acceptation de tout à l'heure ne déguise aucun projet de fuite, et qu'avant la nuit, vous serez revenu au palais royal avec Jeanne de Chambard.
« Je jure à votre Altesse royale, » répondit Raoul. « Je jure sur ma foi de gentilhomme, » et il appuya sur ces derniers mots, « je jure de ne point même essayer une fuite impossible, et qui est bien loin de ma pensée. Je jure d'être revenu avant la nuit au palais royal et d'y ramener Jeanne de Chambard avec moi. »
« C'est bien, » fit le régent en frappant deux coups sur un timbre. L'huissier de justice se présenta, ainsi que l'exemple vêtu de noir.
« Monsieur de la Tremblay est libre, » dit Philippe d'Orléans à ce dernier. « Rendez-lui son épée.